des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec un matin aussi hivernal. Est-ce que vous avez le goût d'aller dans le sud? Moi, je penserais à plus d'une fois, compte tenu des mesures pas mal contraignantes que le gouvernement fédéral s'apprête à nous imposer. Alors, cette semaine, on peut aussi se demander, avec la turbulence qui a frappé notre industrie du transport aérien et de l'aéronautique, toutes nos compagnies aériennes sont à peu près clouées au sol, donc difficile de voyager. Imaginez, Air Canada a annoncé des milliers de mises à pied, les résultats sont catastrophiques. Sunwing qui est prêt à se vendre à WestJet, Bombardier qui coupe des postes, le deal de Transat avec Air Canada est toujours dans l'air. Enfin, on se pose la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Pour analyser tout ça, j'aurai un spécialiste de l'aviation qui nous parlera de tout ça. Notre chroniqueur Michel Girard fera son analyse. En plus, dans le balado, je vous parle d'un jeune de 19 ans qui est le petit-fils d'un grand dirigeant bancaire qui s'allie avec un millionnaire pour se faire financer son entreprise. On va se demander pourquoi les consommateurs québécois boudent le porc et préfèrent le bœuf. Et en terminant, pour la Saint-Valentin, je vous propose de parler de la business des sites de rencontre au Québec. Bon balado!
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
On a appris hier que Bombardier a coupé 700 postes au Québec, 1600 dans l'ensemble de son organisation. Force est d'admettre que Bombardier n'est plus l'ombre d'elle-même, une multinationale qui est démantelée. Et dans le fond, on va en parler et analyser tout ça avec notre chroniqueur Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel.
Bonjour Yves.
Tu suis ce dossier-là, évidemment, depuis longtemps, le dossier de la firme Bombardier. Quand je regardais ta chronique, et là, je voyais la comparaison, une entreprise qui avait 20 milliards US de revenus, de chiffre d'affaires en 2014, puis aujourd'hui, c'est 6 milliards. C'est vraiment une chute libre.
Oui. Ah ben, en fait, écoute, l'entreprise avait 4 divisions, et puis il n'en reste plus qu'une, parce que finalement, on s'est départi des 3 autres. Mm-hmm. Alors, on se rappellera qu'on s'est départi de la division avions commerciaux avec la C-Series et les avions Q400 et CRJ. On s'est également départi de la division qu'on appelait aérostructure et services d'ingénierie. Et puis récemment, là, ça vient d'être conclu, là, finalement, la division transport, là, où on était, où Bombardier était dominant dans ce secteur-là, était un grand leader mondial. Alors, le leader mondial a été cédé à Ashton. Alors, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que les avions d'affaires, c'est-à-dire les avions d'affaires, on fait référence au Challenger, au Global, puis au Learjet, mais le Learjet, lui, il tire à sa fin.
Mais là, on a encore 13 000 employés chez Bombardier au Québec. C'est quand Québec, même encore énorme. Est-ce que on peut penser qu'Éric Martel, le nouveau PDG de Bombardier, va être capable de s'assurer qu'on va maintenir ces 13 000-là ou on va se retrouver encore avec des compressions d'année en année? Déjà, le gouvernement Legault a déjà était prêt encore à aider Bombardier si jamais il y avait une aide demandée.
Oui, ça ne finit plus. C'est-à-dire que c'est sûr que Martel veut, il souhaite sûrement de tout son cœur, n'est-ce pas, permettre à Bombardier de survivre avec cet accent sur strictement sur les avions d'affaires. Or, écoute, ça dépend pas de lui, là. Ça dépend du marché mondial. Mm. Ça dépend quand est-ce qu'on va sortir de la COVID. Là, tout ce qu'on croit, on croise les doigts, évidemment, parce qu'on sait bien que le secteur aéronautique, peu importe le type d'avion, à cause de la pandémie qui a été déclenchée depuis mars dernier. Écoute, c'est effrayant ce qui s'est produit. Alors, c'est la catastrophe. Donc, puis tu sais, les gens, les avions d'affaires, ben on sait bien, c'est la clientèle privilégiée qui achète ça, les avions d'affaires. Or, en principe, là, on voit que les entreprises ont l'air à bien s'en sortir. Je parle des multinationales, c'est parce qu'il faut quand même être assez riche pour acheter ces avions d'affaires-là. Donc, j'ai l'impression que, ils ont évalué que c'était le créneau, entre guillemets, d'avenir pour eux. On leur souhaite bonne chance. Mais tu sais, hein, regarde, c'est pas compliqué, là. Je le dis dans mon article. En janvier 2001, puis moi, je suis bombardier depuis une éternité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, en janvier 2001, l'action Bombardier avait dépassé la barre des 25 $.
Incroyable.
25 $, Yves. Et aujourd'hui, le titre se négocie autour des 60 cents. Or, puis même, il est tombé à 26 cents l'automne dernier, là. Or, c'est pas pour rien. Tu sais, en bourse, quand une compagnie, une multinationale passe de 25 piastres puis elle tombe à 60 cents, c'est parce que la raison principale, on l'a vu ces dernières années, c'est le démantèlement complet ou presque de l'entreprise. Tu donnais tantôt le volume d'affaires. Ben, ça aussi, c'est significatif. Mm-hmm. Tu as 20 milliards US de volume d'affaires, tu te ramasses à 6 milliards US. Donc, ça vient de fondre de plus de 60%. Regarde, le titre, lui, il suit le développement de l'entreprise et puis la santé financière de l'entreprise. On n'a fait que déclarer des déficits sur les 7 dernières années, 6 fois dans le trou. Or, puis je vois pas comment, en passant, quand est-ce qu'on va redevenir rentable là, chez Bombardier.
Mais là, sur les 4 divisions là, qui composent Bombardier, là, bon, on a perdu le CCRI là, au niveau des avions commerciaux. Il y a évidemment les avions Q400 puis le CRJ aussi. Là. Dans la division, évidemment, tout ce qui touche le transport, bien évidemment, c'est parti auprès d'Alstom. Là, il reste cette division-là de jet d'affaires. Puis, rappelle-toi, au moment où le Bombardier était dans le trouble, il y avait des rumeurs qui circulaient, tu sais, des compagnies comme Bell Hélicoptère et d'autres compagnies qui pouvaient s'intéresser à la division des jets d'affaires. Il n'y a rien de garanti qu'un jour, il n'y a pas des gens qui pourraient être intéressés à acheter la division de jet d'affaires de Bombardier. Puis que,
il n'y a absolument rien de garanti que Bombardier va continuer, là. Ah non, moi, je regarde, ils ont réussi à démanteler les 3/4 d'entreprise. Mm-hmm. Il en reste le quart. Alors, ça ne sera pas une surprise à un moment donné que l'entreprise concède ça à quelqu'un d'autre.
Parce qu'il y a des gros joueurs là-dedans, là. Tu sais, Boeing qui s'est allié un peu avec Embraer. Il y a quand même des gros joueurs dans ce secteur des aviations, tu sais, pour éliminer un petit concurrent là, qui est aujourd'hui les chiffres d'affaires de 5 milliards. Puis tu as quand même le génie ici, là, de gens qui connaissent un peu l'aviation là, ou la construction d'avions, là. Ça serait peut-être tentant. En tout cas, moi, j'ai hâte de suivre Éric Martel. Je sais pas s'il se retrouve dans une situation où il était bien à Hydro-Québec à une certaine époque où il n'y avait pas à couper. Aujourd'hui, il se retrouve dans une entreprise où il doit procéder à des coupures.
Mais regarde, faut pas s'inquiéter pour Éric Martel avec le salaire qu'il gagne chez Bombardier. Nettement plus payant, n'est-ce pas, que chez Hydro-Québec. Ça fait que là, il essaye de redresser l'entreprise, mais il faut pas s'inquiéter pour lui, même si l'entreprise, je dis pour moi, qu'elle va fermer ses portes, mais qu'elle allait de plus en plus mal. Regarde, financièrement, personnellement, lui, il pourra bien s'en sortir.
Bon, mais j'espère que, évidemment, on va surveiller cette expertise-là, parce que c'est tout un écosystème de l'aérospatial au Québec. Au-delà de Bombardier, on a quand même toute une industrie au Québec.
Essentiel,
tu sais, c'est comme l'industrie automobile en Ontario. Puis si Bombardier disparaît, ben, tu sais, il y a quand même 42 autres entreprises qui sont dans le secteur. Évidemment, bon, t'as des multinationales comme Airbus qui sont ici. Souhaitons qu'eux aussi vont augmenter le nombre d'emplois au cours des années quand la business va reprendre. Donc, Michel, on en parle certainement au cours des prochaines semaines. Donc, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Merci, Michel.
Yves Daou et Michel Girard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
Nous avons eu une semaine très chargée en actualité autour de nos compagnies aériennes et de l'aéronautique cette semaine. Évidemment, il y a eu des mises à pied chez Bombardier, il y a eu des mises à pied aussi chez Air Canada. Le deal Air Canada et Transat est toujours dans l'air. Donc, pour parler de ce sujet-là, j'ai invité un spécialiste qui s'appelle Mehan Ebrahimi, spécialiste de l'aviation et aussi professeur à l'UQAM. Bonjour, M. Ebrahimi.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans ce secteur-là là, depuis des années. On vous voit un peu partout, à Radio-Canada, TVA, etc. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment aussi difficile, autant pour les voyageurs, les compagnies aériennes, l'aéronautique, en l'espace d'un an?
Jamais, même quand on recule dans l'histoire. La particularité de cette crise-là, c'est que c'était mondial et d'un seul coup partout. Par exemple, quand il y a eu des attentats de 2001, ça a beaucoup affecté le transport aérien en Amérique du Nord, l'Europe continentale, mais l'Asie, Moyen-Orient et l'Océanie, ça allait relativement bien. Donc, les activités se sont pas arrêtées. Bon, il y a eu une baisse de 30-35% mondiale, mais ça continue. Quand il y a eu, par exemple, des crises H1N1, SRAS et tout ça en Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, ça allait quand même bien. Donc, même s'il y avait une diminution du volume des activités, ça roulait quand même assez bien. Sauf que cette fois-ci, tout d'un coup, partout dans le monde, dans l'espace de quelques semaines, on a dû annuler à peu près 80-90% des volumes des vols. Tout d'un coup, les compagnies étaient prises avec les coûts habituels, c'est-à-dire location ou coût de capital des avions, le personnel, les tarifs aéroportuaires et autres. Mais du jour au lendemain, les revenus disparaissaient. Donc, et on n'avait jamais connu donc une pandémie de cette envergure-là et son impact sur le transport aérien. Donc, vraiment, ça a mis tout le monde à genoux. Ou c'est pour ça que les gouvernements ont commencé à agir pour essayer de supporter les compagnies aériennes parce qu'ils savaient que ils doivent continuer à payer les coûts courants, mais il n'y a plus de revenus.
Parlant de gouvernement, hier, une grosse annonce, le ministère des Transports a donné son aval son accord à l'achat de Transat par Air Canada, évidemment avec une série de modalités. Évidemment, ces modalités-là, bon, on dit ça, mais tu sais, l'idée de garder le siège social, on le sait au Québec, là, il y a eu beaucoup d'ententes qui ont été faites pour maintenir les sièges sociaux puis qui ont disparu. Le maintien des emplois, le maintien de la marque Transat. Croyez-vous vraiment que Air Canada va être capable de respecter ça dans 4-5 ans?
Je pense que c'est dans l'intérêt d'Air Canada de respecter ça. Parce que Air Transat, le groupe Transat, c'est une très belle marque. Dans le voyage d'agrément, Air Transat et Groupe Transat ont une expertise reconnue. Autrement dit, c'est dans l'intérêt d'Air Canada de garder cette marque-là. Le siège social, je pense que c'est une des questions questions philosophiques extrêmement importantes. Ça a été un engagement très clair. C'est sur la base de cet engagement-là que les actionnaires d'Air Transat ont décidé, c'est sur la base de cet engagement-là que le gouvernement fédéral a donné son accord, c'est sur cette base de cet engagement-là que la direction d'Air Transat a présenté la viabilité et l'intérêt du projet à la population québécoise. Donc, je pense que, on a vu à plusieurs reprises dans le temps que Air Canada n'a pas nécessairement toujours respecté les engagements, mais je pense qu'il va y avoir une espèce de tollé. En tout cas, ça fait comme si mentir à la face du monde. Ce qui est important pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire c'est une étape de franchie, une bonne étape pour le transport aérien canadien. C'est une très bonne étape pour la survie, la viabilité, la pérennité d'Air Transat, parce qu'encore une fois, c'est une excellente marque, c'est une très bonne compagnie, niveau de compétences et expertise au niveau des pilotes, au niveau de la maintenance et tout ça, qui sont très élevés. Elle a une maîtrise très, très importante du réseau touristique. Donc d'ailleurs, c'est pour tout ça que Air Canada s'est intéressé à Air Transat. Donc pour l'instant, j'espère que la Commission européenne ne va pas être trop...
Oui, c'est ça. Il faut quand même rappeler là, que c'est peut-être... même s'il y a eu cet aval-là, c'est quand même pas terminé là, parce qu'il y a quand même une date butoir là, qui est le 15 février où la Commission européenne doit effectivement statuer là, sur s'ils sont d'accord ou pas. S'il n'y a pas cet accord-là de la Commission européenne, autrement dit, le deal, là, est-ce qu'il est out là, entre Air Transat et...
Non, en principe, non. Dans la mesure où la Commission européenne n'a pas d'autorité dans notre ciel à nous, nous sommes souverains dans notre pays, donc c'est nous qui décidons ici est-ce qu'on accorde ou on accepte ou pas une transaction entre deux entités canadiennes. À ce niveau-là, c'est le gouvernement fédéral, puisque c'est sa juridiction qui décide. La Commission européenne peut intervenir en disant « Moi, je donne un avis favorable ou un avis défavorable ou un avis conditionnel dans la mesure où, par exemple, on peut prétexter le fait que Air Transat et Air Canada, ça fait une trop grosse entité et que ça réduit la concurrence. » Alors, la Commission européenne, généralement, est assez hypocrite dans ses positions parce que, généralement, elle prend des positions en faveur des compagnies européennes. Et on sait, par exemple, que des trajets Montréal-Paris, Toronto-Paris, Toronto-Londres, tout ça sont des trajets très rentables. Alors, ils ne veulent pas que la part des compagnies européennes diminue. Et d'ailleurs, double hypocrisie, parce que il y a beaucoup de consolidations qui se font aujourd'hui dans la communauté européenne et la Commission européenne, ça ne les inquiète pas. Alors, tout d'un coup, ils s'inquiètent d'une transaction entre Air Canada et Air Transat. Alors, donc, mais ce que la Commission européenne peut demander, peut exiger, c'est qu'un certain nombre de vols, le nombre de sièges, un certain nombre de plages horaires, tout ça soit modifié, diminué, retiré pour que la transaction puisse être approuvée. Mais ça, on verra.
Le vice-président de Transat, Christophe Hennebelle, disait hier un peu à tout le monde là, que Air Canada aurait le droit à tout moment, là, dès le lundi, de tourner le dos à la transaction puis renoncer à l'acquisition du voyagiste là, sans pénalité. Donc, est-ce que c'est une... Bon, ce matin, les résultats sont sortis de d'Air Canada. Évidemment, la situation est catastrophique pour les revenus. Est-ce que Air Canada a même les moyens d'acheter Transat puis après ça, de s'assurer de ses opérations compte tenu dans le trouble qu'elle est déjà?
Oui. Alors, vous avez raison. Dans la clause, dans l'offre d'achat, il y a une clause qui donne le droit à Air Canada que face à refus ou un avis défavorable, ou en tout cas absence d'avis avant la date butoir qui est le 15 février, s'il n'y a pas un avis ou s'il y a un avis défavorable, Air Canada peut recourir à cette clause-là et de se retirer sans pénalité de cette offre d'achat, de cette entente-là. Donc, sans pénalité. Donc, Air Canada peut très bien le faire. Maintenant, la question, c'est une question de stratégie. On met la main sur une entreprise qui a un réseau extraordinaire, il y a des avions, des pilotes de très bonne qualité. Si vous envisagez la transaction pour maintenant, ça se justifie pas. Il y a plusieurs avions d'Air Canada qui sont cloués au sol, ils en mettent des avions en vente, plusieurs centaines de pilotes au chômage. C'est pas la peine d'aller acheter une entité qui vient rajouter à tout ça. Par contre, si on se met un petit peu dans une perspective un peu plus long terme, on va dire, bah, écoutez, il y a de toute façon un jour cette pandémie-là, elle sera plus là. Il y aura une période après pandémie. À ce moment-là, quand on regarde, qu'on met la main sur cette entité-là, qui veut, pour 190 millions de dollars, pour vous et moi, 190 millions de dollars, c'est beaucoup. Mais quand on regarde l'entreprise, et son expertise, son réseau, son savoir-faire, ce n'est pas tant que ça. Autrement dit, Air Canada pourra aller largement renforcer son expertise en matière de voyage d'agrément avec Air Transat, et continuer ses activités comme une compagnie conventionnelle. Alors donc, je pense que Air Canada, si on regarde un peu plus loin que la situation actuelle, ou par exemple, si on se projette dans un an et demi, deux ans et plus, cette transaction est très, très rentable. Il ne faut quand même pas oublier que dans un premier temps, cette transaction-là, c'était à 18 dollars par action, ce qui nous ramenait à 700 millions de quelques. Alors après, c'est tombé après la pandémie à 5 dollars, c'est 290 millions de dollars. On va dire que ce n'est pas beaucoup quand on parle de ces chiffres et de la possibilité, je dirais, financière d'Air Canada, même aujourd'hui.
Monsieur Ebrahimi, on va surveiller ça dès lundi. On verra ce que se passe avec la Commission européenne, s'ils ne prennent pas de décision et qu'est-ce que fera Air Canada. Et merci beaucoup de votre analyse et on va certainement se reparler sur ce dossier. Donc, c'était Mehan Ebrahimi, spécialiste de l'aviation et professeur à l'UQAM. Merci, Monsieur Ebrahimi.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Bonne journée.
Au revoir.
À
arrêtez de vous virer sur une scène.
J'ai eu mon trassou!
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Tout le monde au Québec connaît Claude Bélan, qui a été évidemment un gestionnaire, un humaniste, un avocat renommé au Québec. Il a quand même été président du mouvement Desjardins là, de 1987 à 2000. Et ce qui est surprenant, c'est un de ses petits-fils qui s'appelle Lucas Bélan, qui a une start-up qui s'appelle GoLot et qui vient d'obtenir un financement assez extraordinaire. Et donc, pour discuter de son start-up et ou de sa jeune pousse et discuter évidemment de comment il a réussi à tirer son épingle du jeu, je reçois Luc Bélan, qui est le président et fondateur de cette start-up montréalaise qui s'appelle GoLot. Bonjour, M. Bélan.
Bonjour, Yves. Vous allez bien?
Très, très bien. Vous?
Ça va super bien, merci.
Je me pose toujours la question de faire partie de la famille Bélan et de se retrouver, parce que M. Bélan a été quand même une personne très présente dans l'actualité. Il a quand même dénoncé le virement un peu capitaliste et du mouvement Desjardins à un moment qui considérait que c'était plus une coopérative, que c'était devenu une banque. Il était aussi très impliqué dans le MÉDAC, qui était un organisme qui défendait justement les petits actionnaires. Aujourd'hui, vous vous retrouvez devant une start-up qui a réussi quand même à aller chercher beaucoup d'argent auprès d'un millionnaire. Parlez-nous donc de justement comment vous avez obtenu ce fameux 2 millions de dollars pour votre start-up.
Bien sûr. Donc, le financement de GoLoot s'est fait en deux phases. D'abord, quand j'étais encore aux études, j'avais que 16 ans à l'époque. J'étais un peu frappé par un projet personnel qui s'est transformé en entreprise avec beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Et puis, je suis allé chercher un premier financement auprès d'anges entrepreneurs québécois. Donc, quand on fait référence à des anges, on parle de personnes qui investissent du capital de risque, si vous voulez, là, juste pour qu'on ait la même définition. Mmh. Et donc, je suis allé ramasser un premier 300 000 $ d'anges investisseurs ici au Québec qui m'a permis de décoller, si vous voulez, avec GoLoot, qui à l'époque ressemblait à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais bien évidemment, comme toute jeune pousse, s'est transformé avec le temps. Et puis en 2020, à travers la pandémie, l'entreprise a levé sa première ronde officielle, donc de 2 millions de $ à ce moment-ci. Et j'ai réussi à lever ce financement sur près de 6 mois à travers la pandémie, ce qui a été toute une épopée, je vais pas vous le cacher. Mm-hmm. Mais le financement s'est encore fait par des anges entrepreneurs québécois, dont le principal est Joel Leonoff. Donc Joel Leonoff, qui est le président et fondateur de PaySafe, une entreprise montréalaise qui est un géant international du paiement. Donc, voilà un peu rapidement comment nous avons réussi à accumuler le financement pour démarrer l'entreprise.
Justement, parlant de Joel Leonoff, c'est quand même un millionnaire qui se promène un peu partout. Il vient de se lancer sur Nasdaq, etc. Comment un jeune entrepreneur comme vous se retrouve dans des relations avec des gens aussi riches?
Ah, c'est une très bonne question. Moi-même, je me le demande parfois. Donc, ça commence avec, je pense, énormément d'introductions. Il y a eu toutes sortes de gens dans l'écosystème montréalais et québécois qui ont été des pierres angulaires de mon aventure et encore aujourd'hui le sont. Que ce soit par du mentorat, que ce soit par du financement ou par simplement m'introduire à d'autres personnes, je suis tombé dans un écosystème excessivement généreux au Québec, qui est l'écosystème entrepreneurial technologique, qui est en pleine effervescence. Et donc, en février 2020, à travers de nombreuses relations, si on descendait la chaîne, il faudrait presque partir d'étudiant à Polytechnique pour remonter jusqu'à lui, d'introduction à introduction à introduction. J'ai réussi à avoir une rencontre de 30 minutes dans son bureau à PaySafe. Donc, qui est basé ici à Montréal. Et puis, je m'étais préparé comme jamais. C'était la rencontre de ma vie. Et ça a été, je veux pas dire un coup de foudre, mais ça a été quand même un moment où est-ce que lui et moi avons connecté sur une ambition qui était de transformer un domaine qui allait connaître des énormes changements dans les 10 prochaines années. Et je voulais me positionner au-devant de ça avec mon entreprise. Et je pense qu'on avait le potentiel. Et certainement, Joe l'y a cru. Ça a quand même pris 6 mois pour fermer le tout. Vous avez dit, c'est un homme qui est très international, mais il n'est pas le seul non plus à avoir participé à ce financement. Mais il a quand même offert la majorité là, de la ronde à l'entreprise.
Lucas, on va se mettre dans un jeu intéressant. Si moi, j'étais Joël Lenoff, puis que tu, comme tu dis, tu l'as rencontré, tu as eu 30 minutes, vends-nous donc ce que c'est Golot pour que les auditeurs puissent comprendre comment tu as réussi à convaincre la qualité de ce produit-là. C'est quoi exactement?
C'est une bonne question. Donc, GoLoot, c'est une entreprise qui vise à transformer la façon dont les gens perçoivent et interagissent avec la publicité mobile. En 2020, il y a 2,5 milliards de personnes qui jouent à des jeux sur leur téléphone cellulaire à tous les jours, dont 20 millions de Canadiens et plus de 200 millions d'Américains. C'est un marché énorme et gigantesque qui est malheureusement en train de vivre deux crises existentielles. La première crise est que les marques et les annonceurs, que ce soit des marques locales comme Renaud Bray, etc., jusqu'à des géants internationaux, n'utilisent pas le mobile comme un véhicule de publicité. La majorité des annonces qu'on voit passer sur nos téléphones cellulaires sont des annonces pour d'autres applications mobiles. Et c'est spécifiquement le cas dans les jeux mobiles. Les gens qui jouent à la maison sont très, 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 très habitués à voir d'autres jeux ou d'autres affaires qui ne nous intéressent pas du tout. La deuxième crise que ce domaine est en train de vivre, c'est une crise qui perdure depuis presque 10 ans, c'est que les formats publicitaires auxquels nous avons droit en tant que consommateurs n'apportent aucune valeur à notre expérience mobile. C'est excessivement dérangeant, c'est répétitif, c'est complètement inutile. Et donc, moi, en tant que, à l'époque, en 2016, développeur de jeux, j'ai tenté de bâtir mon propre jeu, j'ai fait face à ce même problème. Je me suis dit, il n'en est pas question que j'accepte que des publicités dérangeantes et sans valeur viennent interrompre mon expérience mobile et viennent déranger mes utilisateurs.
Donc, autrement dit, aujourd'hui là, les consommateurs, est-ce que c'est une application native que tu prends directement sur Apple Store ou puis que tu mets sur ton où c'est géré à partir des compagnies de télécommunications sur ton mobile?
C'est ça. Donc, aujourd'hui, GoLoot, l'entreprise, partie de ces problèmes-là, ce qu'on fait, on offre à des annonceurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, une expérience publicitaire qu'on est capable de distribuer à travers des centaines de milliers d'applications mobiles différentes. Donc, on est capable de rejoindre 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde avec notre système publicitaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des promotions, des offres, des marques locales et internationales qu'on connaît et on les remet à des utilisateurs mobiles pour des accomplissements spécifiques dans leur application. Donc, on peut imaginer que vous jouez à un jeu, si vous avez battu un casse-tête aujourd'hui, vous avez battu un monstre ou peu importe, ou même vous vous entraînez, vous allez courir 5 km dehors, ben GoLoot va vous remettre un bon d'achat, un coupon rabais ou une remise en argent sur votre prochain achat chez Nike que vous pouvez aller consommer directement à partir de votre téléphone cellulaire. Vous pouvez partager vos récompenses avec vos amis, vous pouvez les sauvegarder à partir de votre portefeuille électronique qui est attaché à votre téléphone cellulaire et vous pouvez aller après ça consommer sur les sites de nos partenaires. Au moment de l'achat, GoLoot vous récompense une deuxième fois avec des bonus virtuels dans votre application mobile.
Donc, je te donne un exemple, Lucas. Moi, je fais de la course. J'ai Nike Run sur mon application mobile. Je cours, mettons, mon 5 km. Ça veut dire qu'à la fin du 5 km, j'ai une récompense si j'ai un élément lié avec GoLoot?
Exactement. Donc, si vous avez utilisé une application et vous avez couru 5 km, on peut imaginer, encore une fois, tout est théorique ici, mais c'est exactement ce que l'entreprise fait dans la vie. Mm-hmm. On vous remet un 10 ou 15 ou 20 % up sur votre prochain achat chez Nike, par exemple. Vous pouvez utiliser cette récompense pour aller sur le site Internet de Nike à partir de votre téléphone. Elle s'applique automatiquement à l'achat. Et au moment de l'achat, GoLoot va vous remettre des récompenses virtuelles dans l'application Nike Run, que ce soit de l'accès à du contenu premium, que ce soit 2 mois gratuits à l'abonnement Nike Premium. Peu importe ce que c'est à l'intérieur de ces applications-là, on vous récompense une deuxième fois en tant que consommateur. Donc, on crée un cycle où votre comportement dans l'application mobile vous donne des récompenses de marque. C'est ça la publicité chez GoLoot. Et après ça, au moment de l'achat, on vient bonifier votre expérience mobile. Et pour le consommateur, ça tourne. Ça peut être infini et illimité.
Lucas, je te pose une question qui est pour conclure notre entrevue. Évidemment, ton grand-père qui a été longtemps à la tête de Desjardins, Est-ce que le 2 millions n'aura pas pu venir de Desjardins?
Desjardins a une firme de capital de risque. Par contre, comme la majorité des institutions financières ne font pas du capital de démarrage. Donc, Desjardins attend d'avoir un plan d'affaires très solide, attend d'avoir certaines croissances de revenus avant d'intervenir, comme beaucoup, beaucoup de banques / institutions coopératives, pour utiliser les mots de mon grand-père. La ligne est floue aujourd'hui. Donc, les banques ne font pas du capital de démarrage. C'est plus commun d'utiliser des anges entrepreneurs comme Joel pour prendre ce premier capital qui est assez risqué, mais qui finance une ambition, qui finance un rêve, une innovation.
Lucas Bélan, qui est président fondateur de la start-up montréalaise Gouloud, qui est spécialisée dans le domaine de la publicité mobile. C'était extrêmement intéressant d'entendre où tu t'en vas avec ton plan d'affaires. Et évidemment, espérons qu'on se reparlera dans les mois à venir pour le succès de ton entreprise. Merci beaucoup, Lucas Bélan.
Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard.
Régulièrement, au cours de cette émission « Mêlez-vous de vos affaires », on discute souvent de comment les consommateurs se comportent par rapport à leur achat, autant au niveau des légumes et des viandes. Et le spécialiste pour nous parler de cela, c'est toujours Sylvain Charlebois, qui est du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Je lisais ta chronique ce matin et ça m'a frappé. Moi, je pensais que le porc au Québec, qui est quand même on est le plus grand producteur de porc au Canada, les Québécois seraient tournés vers le porc. Et là, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que le porc est populaire dans le reste du Canada, mais au Québec, c'est le bœuf qui règne. Pourquoi?
Bien, la viande a été très populaire cette année un peu partout au Canada, évidemment en raison du fait que les restaurants y en arrachaient là, un peu partout, donc les ventes étaient en hausse. Mais ce qui est intéressant à regarder les résultats pour 2020 et puis janvier 2021, c'est que le porc est populaire partout au Canada. C'était la viande qui a augmenté le plus en croissance de vente, et puis sauf au Québec. Au Québec, c'est le bœuf. Moi, j'ai l'impression que la campagne Bœuf Québec, là, qui fait beaucoup de bruit, là, fonctionne. Pendant des années, les Québécois, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au niveau du bœuf. Là, on a amené beaucoup d'énergie à la filière ces derniers temps, et la campagne semble fonctionner. Et les Québécois renouent leur amour avec le bœuf.
On a-tu vraiment des producteurs de bœuf au Québec ou on importe essentiellement ce bœuf-là de l'Alberta et des États-Unis?
Bien, la grande majorité est importée d'ailleurs, là, de l'Ouest canadien. Le cheptel québécois a environ 80 à 90 000 têtes. Là. C'est pas énorme, là, comparativement à 5 millions, là, c'est rien. Là. Par contre, ce que j'ai remarqué au Québec depuis quelques années, c'est qu'on s'organise en filière. On travaille sur la transformation. On travaille sur le développement de produits aussi. Sûrement, moi, j'ai passé mes fêtes au Québec, puis j'ai remarqué dans les magasins qu'il y a toutes sortes de nouveaux produits faits avec du bœuf du Québec, des boulettes suédoises, des cipates. Il y a toutes sortes de beaux produits là qui sont offerts aux Québécois, puis ben il y en prend davantage.
Mais il y a quand même une différence. Là. Quand on regarde le prix du porc puis le prix du bœuf, on parle de souvent le bœuf est quand même plus dispendieux que le porc, non?
Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est un produit de luxe, là, le bœuf. Il ne faut quand même le rappeler. Là. Le porc est quand même une protéine abordable, sauf que le porc est devenu de plus en plus cher. Hein. Quand on regarde l'augmentation des ventes en volume versus prix, versus dollars, là, on voit que vraiment, là, au niveau de la croissance en dollars, il y a une augmentation assez importante comparativement au volume. Fait que c'est sûr que l'inflation a affecté le porc. L'inflation aussi a affecté le bœuf. Ce qui a été particulier en 2020, c'est que la COVID a affecté l'ensemble de la tiercée des viandes, le porc, le bœuf, le poulet, puis c'est rare que ça arrive, ça.
Mais tu sais, il y a eu tout un débat au Québec. Tu sais, même si on était des producteurs de bœuf, parce que c'est quand même assez coûteux de produire un bœuf, il y a eu toute la question du fait aussi qu'on n'a presque plus d'abattoir pour le bœuf. Donc, quelqu'un qui est un producteur de bœuf au Québec encore aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas obligé de faire abattre son bœuf ailleurs?
C'est le maillon faible de la filière au Québec. Il y a un abattoir. Il y en avait un autre, Colbex, mais ça a fait faillite il y a quelques années. Là. Ça a fait un scandale aussi financier.
Oui, énorme.
Ça a été quand même assez compliqué. Fait que c'est sûr qu'au niveau du bœuf, ce qu'il fallait, c'est une stratégie à la base sur le plancher des vaches, là, pour pas utiliser une mauvaise expression, mais dans le fond, il fallait développer une stratégie en misant sur le consommateur. Et Bœuf Québec, c'est exactement ça que Bœuf Québec fait. On s'intéresse aux saveurs, on s'intéresse aux consommateurs et on travaille sur l'architecture de la filière en conséquence. Dans le temps de Colbeck, c'était le contraire. C'était on produit quelque chose puis on va s'arranger pour que ça se vende à quelque part. Ça, c'est la mauvaise stratégie. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un revirement stratégique et on focalise sur le consommateur québécois. On s'intéresse à ce qu'il ou elle veut.
Et je veux revenir justement, c'est qui ces producteurs québécois de bœuf? C'est-tu des entreprises québécoises? T'as-tu quelques noms à nous mentionner? Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Là? C'est qui nos producteurs au Québec?
Ben, j'ai eu la chance de rencontrer, je pense, à peu près une cinquantaine de producteurs québécois à Drummondville il y a 2 ou 3 ans, je crois, au début de la stratégie Bœuf Québec. Et Jean-Sébastien Gascon, qui est le président directeur général de Bœuf Québec, qui fait un excellent travail, là, a mobilisé tout le monde. Donc, une cinquantaine d'entreprises qui se regroupent, travaillent ensemble, travaillent sur la transformation, travaillent sur l'image de marque aussi. Donc, il y a une coordination verticale qui permet justement aux produits d'avoir du succès sur le marché. Et c'est l'avenir, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas juste une question de producteurs qui se ramassent ensemble pour dire « Nous, on va produire tel produit, puis on va aller chercher une marque contrôlée. » Là. C'est pas ça que je vois avec Bœuf Québec. Moi, je vois vraiment une stratégie intégrée, verticale, de la ferme à la table. Ou en fait, de la table à la ferme, finalement. C'est le contraire.
Donc, ce soir, Sylvain, quand j'irai au supermarché, je pense que tu m'as déjà convaincu que je vais choisir le bœuf plus que le porc ce soir, juste pour ce soir. Puis demain, oui. Je changerai. Donc, on apprécie toujours ton analyse de comment se comportent les consommateurs à l'égard de leur achat. Donc, c'était Sylvain Charlebois, qui est du Laboratoire de sciences analytiques et en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Merci, Sylvain Charlebois.
Yves Daou et Michel Girard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
Comme tout le monde, vous savez, c'est la Saint-Valentin et beaucoup de Québécois qui vont penser à leur relation amoureuse. Évidemment, la pandémie a frappé beaucoup de gens au niveau de la distanciation, le fait que, évidemment, les gens ne pouvaient pas se voir. Puis, évidemment, tous les célibataires se sont trouvés, souvent à distance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une business de l'amour et évidemment, c'est autour de ce qu'on appelle les sites de rencontres. Au Québec, il y a au moins 3 sites importants au Québec. Il y a Rencontres sportives, il y a GoSeeYou, il y a Réseau Contact qui sont des sites très actifs au Québec. Et pour discuter de comment va un site de rencontre en pleine pandémie et évidemment à la veille de la Saint-Valentin, je reçois Anne-Marie Lefebvre, qui est présidente et fondatrice de Rencontres sportives. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Yves.
Évidemment, avant de parler de la Saint-Valentin, parce qu'il reste quand même quelques jours, il reste une journée, parle-nous donc, un site de rencontre au moment de dans l'ère de la pandémie, est-ce que c'est un business qui est viable? Comment tu as réussi avec Rencontre sportive à t'assurer qu'il y avait encore une espèce d'activité, même dans un contexte où ce que les gens ne peuvent pas se voir?
Bien, écoute, c'est sûr que au début de la période, au début, là, lors du premier confinement, on a tous, de toute industrie ou toute situation de vie confondue, on a tous vécu une période transitoire qui nous a demandé comme un certain arrêt, puis il y a une réflexion sur qu'est-ce que on était prêt à vivre, peu importe les sphères d'activité de notre vie. Donc nous, ça, on l'a subi aussi, cette espèce de contre-coup, de choc de départ. Puis à ce moment-là, ce qu'on a fait, parce qu'on est une petite équipe, on est comme assez agile là, on a une certaine facilité à virer le bateau de bord. Et ce qu'on s'est mis, on a mis évidemment une pause à tout ce qui était événement rassembleur, mais à l'inverse, on a mis de l'avant la possibilité de faire des petites annonces pour que les gens se trouvent leur plus un, comme on dit, pour faire des activités, parce que le gouvernement a toujours insisté sur l'importance de continuer à jouer dehors, d'avoir une certaine dose de socialisation, parce que c'est important pour le moral. Donc, jouer dehors, puis il y avait des sports qui nous permettaient de faire avec une distanciation, comme mettons le kayak, la marche, et là, l'hiver, c'est autre chose. C'est d'autres disciplines. Mais ça fait en sorte que nous autres, pour nous, ça n'a pas affecté trop longtemps. Puis c'est bien important pour le moral. Donc, au contraire, nous, à un moment donné, là, en ce moment, on est dans une vague vraiment qui est très, très positive par rapport à l'engagement de notre communauté.
Mais Anne-Marie, évidemment, si on se met dans, à rebours un peu, là, évidemment, pendant la pandémie, les gens pouvaient se voir au restaurant, puis il n'y avait peut-être pas besoin de site de rencontre nécessairement. Ils étaient au bureau, ils pouvaient s'appeler, etc. Au moment où les gens ne peuvent plus aller au restaurant, ne peuvent plus se voir, etc., est-ce que ça veut dire que ces sites de rencontre-là sont devenus, dans le fond, un tremplin justement pour rencontrer des gens, puis évidemment, ben là, avec Teams, avec Zoom, avec d'autres modes, est-ce que vous n'êtes pas devenu finalement le rendez-vous parfait en pleine pandémie?
Oui, un genre de service essentiel, pour prendre une expression populaire. Là. Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, on a tous besoin de parler avec notre prochain, puis de rencontrer du monde. On est des êtres grégaires, n'est-ce pas? Donc évidemment, la technologie nous le permet. Fait que les gens, comme tu dis, ont pu utiliser des technologies comme du Zoom ou peu importe la vidéoconférence là, et évidemment le classique, le bon vieux téléphone. Mais les gens, oui, ils en ont profité parce qu'on l'a fait aussi au début de toute façon avec nos familles. Ben ça s'est aussi pratiqué dans le contexte d'on veut rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas encore. Puis vraiment, on voit vraiment un engagement là, qui a augmenté de façon assez assez importante.
Est-ce que tu as remarqué, évidemment, est-ce qu'il y a eu pour ton entreprise, là, parce que tu gères quand même une entreprise et pas une société à but non lucratif, là, est-ce que tu as vu des augmentations importantes du nombre d'abonnés, le trafic sur ton site, etc.? Le résultat, c'était quoi là, concrètement?
Ben, on a été extrêmement dynamique aussi sur, comme je le disais tout à l'heure, on a redoublé d'efforts pour motiver les troupes à rencontrer de façon même à l'extérieur. Là, nous, c'est comme l'objectif, c'est que les gens qui partent aient joué dehors, pas qu'ils passent leur temps sur leurs appareils. Mmh. Même si on vend un service en ligne, on veut quand même que les gens ultimement vivent une belle expérience. Fait qu'on s'est mis à leur proposer toutes sortes d'outils, de fonctionnalités pour les aider à se diriger vers l'extérieur. Puis, ben les gens, ils ont emboîté le pas. Puis, pour répondre à ta question, nous, on a une augmentation de 40 % par rapport à l'année passée. C'est quand même significatif.
Est-ce que tu dirais, là, ben, sans aller dans le détail là, de tout ton plan d'affaires, là, avec la pandémie, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait plus d'abonnements qui venaient des femmes que des hommes ou vice-versa ou à peu près égal?
Ben c'est vrai que comme autant au niveau du nombre de messages envoyés, les initiatives prises, c'est toujours deux fois plus de filles, c'est-à-dire d'hommes qui vont faire le geste soit de débourser ou d'envoyer un nombre de messages. Puis ça, c'est la statistique demeure, c'est que tout le monde a grandi de la même façon. Mais ce qui est le fun, c'est de voir que les gens sont motivés. Tu sais, on a fait des sondages pendant la pandémie. On a fait un sondage au début de la pandémie, mais on avait fait un avant la pandémie. Ça nous a permis de sonder un petit peu la différence de l'humeur des gens avant pandémie, pendant pandémie, après ça, pendant couvre-feu, après le confinement. C'est qu'on a pu voir que, en fait, là, chez nous, le niveau de... Il y a seulement, Yves, 18 % des gens qui nous ont dit avoir souffert pendant le premier confinement, de souffert de solitude, puis qui ont trouvé ça vraiment difficile. Donc, puis d'un autre côté, l'intention de former un couple est toujours à peu près en moyenne de 92 %. Mm-hmm. Alors, ça reste, il n'y a pas eu de cataclysme de dire, oh ben moi j'arrête de sortir, c'est-à-dire j'arrête de faire un effort parce que ça ne vaut pas la peine dans cette période-ci. Non, ce n'est pas ça qui s'avère parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est des êtres grégaires, on a besoin d'être en communication les uns avec les autres, puis on se les fait dire même par François Legault que c'était important de maintenir les liens, évidemment dans une mesure de, avec une mesure de sécurité. Mais il ne nous a jamais découragés de rencontrer du monde puis de sortir dehors, de prendre l'air, de bouger. Puis nous, c'est notre vocation. Fait que ça va tout à fait dans le sens de notre message. Puis d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est de dire aux gens, mais, puisque ça, on l'a sondé aussi, prenez le temps de vous apprivoiser aussi, profitez de cette période-là, de cette situation-là pour y aller plus doucement. Au lieu de première date en way bidding bedding, prenez le temps d'apprendre à vous apprivoiser comme il faut. Puis ça fait la différence, ça, pour la durée de la relation.
Anne-Marie, en concluant, qu'est-ce que tu souhaites à tous tes membres pour la Saint-Valentin?
Ah, ben moi, je leur souhaite de vivre un beau moment, que ce soit avec leurs proches, s'ils sont seuls, s'ils vivent seuls, qu'ils n'ont pas d'amoureux, ou que ce soit, ou d'amants, là, c'est pas tout le monde qui est en couple, mais qu'il n'y a personne non plus, là, et ou sinon avec eux-mêmes, parce que ça commence d'abord par être bien soi-même, puis se faire des petits plaisirs, tu sais, se faire un bon petit repas, passer un moment agréable à lire un bon livre ou à jaser avec une ou aller jouer dehors. Puis quand on sort dehors, même si on est seul, comme je vais le faire dans quelques minutes, je vais aller faire ma course dehors, bien, on voit des gens qui nous sourient, puis c'est débile, mais ça fait du bien. Ça fait le plus grand bien. C'est que de faire des activités, de se mettre au menu des choses qui nous font vraiment plaisir à soi-même.
Je rappelle, donc, au Québec, on a 3 sites québécois. Là, il y a Go See You, il y a Réseau Contact et Rencontre Sportive. Et donc, on était avec Anne-Marie Lefebvre, qui est fondatrice et présidente directrice générale de Rencontre Sportive. Merci, Anne-Marie.
Merci, Yves. Bonne journée à tous.
Bonne journée. Au revoir.
Cube Radio.